Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Jennifer Guillet.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire ». En effet, si vous voulez découvrir la vérité, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que la majorité pense et puis faites le contraire. Parce que la majorité a toujours tort, parce qu'elle suit le modèle qu'on lui a dit. Ce sont des moutons, le berger qui mène ses moutons à l'abattoir. Alors, le peuple est le mouton. C'est encore plus évident aujourd'hui, autant pour ceux qui pensent le contraire que ceux qui pensent comme la majorité. Avec les médias, c'est facile de voir ce que la majorité pense. À travers l'histoire, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes, des génies, des inventeurs, des gens qui ont démontré qu'on peut avoir raison contre 1 million de personnes. Et puis, dans l'histoire, je peux juste donner un exemple, Edison, qui a inventé le phonographe. La première fois qu'il a fait jouer le phonographe devant les savants, il y en a un qui s'est jeté sur lui et il a commencé à l'étrangler. Parce qu'il pensait qu'il faisait il était un ventriloque.
Ah, ok, d'accord.
Mais je vais donner d'autres exemples au cours de l'émission. Vous aussi, probablement, vous allez pouvoir en donner. Alors, quelle est votre première pensée sur ce sujet?
Bien, moi, de mon côté, c'est sûr que suivre le courant majoritaire est habituellement un indicateur qu'il y a une manipulation ou il y a des pressions en ce moment qui opèrent. Donc, il faut prendre du recul puis regarder ça. Pour quelle raison ça, c'est si populaire ou cette chose est si en demande ou on parle de ça en ce moment? Il y a souvent une interprétation derrière le phénomène de la majorité. Et bien sûr, si tu n'es pas penseur libre et que tu ne prends pas de temps pour faire des réflexions sur les grandes questions, bien, à ce moment-là, tu vas juste suivre le courant comme une barque à la merci d'un courant ou d'une rivière sans cap et sans direction, sans autonomie. C'est une quelque chose qui fait peur de mon côté, là, dans le sens, pas que la peur est vraie, mais c'est un portrait triste de l'être humain en général. Mais il faut comprendre que l'être humain aussi, en même temps, est soumis à beaucoup de contrôle, beaucoup de systèmes de contrôle qui est toujours là pour le distraire s'il ne fait pas attention. Autrement dit, s'il n'utilise pas une volonté consciente d'être dans le moment présent puis de porter attention aux détails alentour de lui ou elle, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va divaguer puis on va être porté par le courant.
Et toi, Jennifer? Une petite réflexion sur le sujet cette semaine?
Ben, en fait, moi, c'est parce que j'étais en train de penser pendant qu'il parlait à Galilée.
Oui, je l'ai noté d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Je l'avais vu dans tes exemples. Je trouve ça assez... J'ai toujours trouvé cette histoire-là assez fascinante, tu vois. Quelqu'un qui a des convictions, puis qui trouve la preuve de ce qu'il avance, puis que personne ne le croit, puis qu'il est persécuté à cause de ça. Et je me dis aussi, j'étais aussi en train de penser que... Je me demande si on se pose toujours la question, dans le fond. Est-ce que vraiment, tu sais, à chaque fois, on se pose la question de savoir si ce qu'on pense, c'est ce que pense la majorité?
Ben, tu utilises le « on », là. Mais moi, personnellement, on dirait que c'est fondamental chez moi de faire ce que je veux. Ce que je ressens, je me pose pas nécessairement cette question, mais si j'ai des questions plus profondes, je vais regarder ce que la majorité pense, puis je vais faire le contrepoint de ça, parce qu'en général, la majorité pense ce qu'on lui a dit de penser, elle est pensée, et même je vais aller plus loin, la majorité ne pense pas, dans le sens où moi je comprends le terme de penser, les gens ne pensent pas sur cette planète, ils sont pensés par d'autres.
C'est un genre de répétition ou de réchauffer des pensées ou des idées déjà mises en place par un système très élaboré. Hein. Le système est quand même très bien réglé. La quantité de compagnies de médias qui existent, par exemple, à grande échelle, ici, quoi, au Canada. Au Québec, on a deux, quoi. On a TVA, on a Radio-Canada. Puis c'est pas compliqué de séparer ou partager le même agenda d'information des deux côtés. Tu as juste besoin de faire un téléphone conférence avec trois personnes. Celui qui commande, puis les deux compagnies en même temps. Avec un coup de téléphone, on peut décider de l'agenda des prochains mois. Donc, c'est très évident qu'il y a une intention derrière ça.
Mais moi, à ce sujet, d'ailleurs, j'ai un exemple. Il y a peut-être 2-3 ans, je pense, il y a eu le Frankenstorm. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu une grosse tornade qui a dévasté New York.
Ah oui.
Et puis, tout le monde parlait de ça. Et puis, moi, je chantais qu'il y avait anguille sous roche, comme on dit. Et j'ai fait un rêve à ce moment-là. Je voyais quelqu'un qui était assis dans le corps d'une porte et qui mettait du beurre sur le plancher. Il préparait un mauvais coup. La personne allait venir puis allait tomber. Moi, je vois ça. Tu sais, j'étais un peu fâché. Mais la personne s'est approchée vers moi. Tu sais, puis il n'y a rien que je pouvais faire. Elle était tellement puissante. J'étais obligé de me réveiller. Et puis moi, c'est ça. Dans tous les médias, on parlait de ça comme c'est dramatique. Et ça donnait juste qu'il y allait avoir des élections. Là, 3 jours avant, tu sais, qu'il y avait trop de synchronicité comme ça là, qui portait à réflexion. Donc, je suis allé vérifier. Quand je veux vérifier, souvent, je vais sur YouTube, puis je marque « Anonymous ». Puis je mets le sujet, parce qu'Anonymous vont souvent décrier des situations. Puis, bien sûr, je suis tombé sur des vidéos de gens qui montraient que cette tornade avait été préparée. Et même renforcé, parce que depuis les années 50, il y a une technologie qui permet de soit faire pleuvoir, ou soit d'arrêter une tornade, soit de la faire devenir plus forte. Le HARP, je pense, H-A-R-P.
Oui, H-A-R-P en Alaska. Oui. Puis il y en a un aussi en Russie. Là,
qu'est-ce que ça. C'est exactement?
Le High Altitude Oral...
Avec des appareils, ils sont capables de déclencher de la pluie, par exemple.
C'est un enclos d'antenne à haute puissance qui envoie de l'énergie dans l'ionosphère pour après ça la faire bondir et la faire venir à quelque part d'autre.
Ouais. Puis je voyais ça sur Internet. Mm-hmm. Il y avait une femme qui était une spécialiste en climatologie qui démontrait les points où la tornade avait été déviée. Mm-hmm. Elle s'en allait vraiment pas vers New York. Elle n'a jamais été vers New York.
D'ailleurs, de plus en plus visuellement, on peut le voir. Il y a des quand on regarde, tu sais, le gars qui fait la météo, on regarde les patterns de mouvement, ça devient des fois géométrique. Il n'y a pas de géométrie dans la nature. La nature ne trace pas des lignes droites, règle générale. C'est la même chose avec les formations de nuages à cette heure. Il faut regarder ça de près parce que ça s'en vient de très, très... ça s'en vient de plus en plus évident. C'est comme on dirait qu'une révélation. Plus qu'on avance dans le temps, on dirait que plus les choses arrivent à la lumière puis on découvre le poteau rose de plus en plus.
Cette fois, j'étais tellement en colère là, que j'ai renversé ça vers moi. Je suis tombé malade. J'ai eu une grippe pendant un bon 2 semaines. Vraiment forte. Là. J'étais fâché parce que je disais comment des gens peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Pour l'argent, pour les élections, pour plein de raisons.
Mais c'est un bon point que tu réponds, parce que c'est une question que je dois toujours avoir, ça. Tu observes l'injustice, tu observes la manipulation, tu as une réaction parce que t'es sentient, t'es humain, t'as des émotions, t'as des sentiments. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que si tu fais juste regarder ça, bien sûr, tu vas perdre la tête. Tu vas vouloir te jeter en bas du pont. Là. Je fais une joke, là, mais je fais... Donc, comment tu fais pour gérer ces choses-là hein, quand tu vois autant d'injustices? C'est très difficile. Mais c'est pas difficile, mais je veux dire, il faut que tu fasses de quoi?
Ben moi, j'écris des livres. Je fais une émission de radio. À presque chaque émission de radio, je vais taper sur l'appareil manipulateur plutocratique, mais... Tu peux pas te braquer directement contre une force aussi brute parce que tu vas te faire écraser. Il y en a qui ont essayé. Je veux dire, à travers l'histoire, je sais pas, Gandhi, c'est un homme, un saint. Il s'est fait shooter. John Lennon. Si tu vas trop directement, si tu te révoltes trop fort, tu vas te faire réprimer. Moi, ce n'est pas dans ma philosophie. Je veux pas finir comme le Christ, par exemple. Le Christ est un exemple foudroyant de quelqu'un qui est allé peut-être trop directement. Il a manqué peut-être de subtilité. Alors que le Bouddha est un être aussi développé qui, lui, s'est retiré. Il a vécu jusqu'à 60, peut-être, à peu près. Et Socrate aussi, il s'est fait tuer peut-être dans la soixantaine. Il y a une manière de faire les choses. T'sais. Donc moi, dans ma vie, je l'ai intégré. Quand c'est arrivé, ben, je l'ai retourné vers moi-même. J'étais tellement choqué, je suis tombé malade. Il n'y a rien que je pouvais faire. Tu veux dire, c'est des forces... diaboliques de gens, les familles, les grandes familles, les plutocrates, qui n'en ont rien à faire. ces temps-ci, j'ai écouté beaucoup de vidéos de David Icke.
Ah oui.
Fait que cette semaine, je suis encore assez...
ça va t'animer, ça.
Irrité. Quand...
Oui, bien sûr. David Icke fait un bon travail de dénoncer ces choses-là.
Il faut que faut se garder informé. Je pense qu'il faut avoir toujours un esprit ouvert pour ne pas tomber dans le panneau. Puis c'est là qu'on peut se demander... Qu'est-ce que la majorité pense?
Mm-hmm.
OK, elle pense ça, donc elle a certainement tort.
Mm-hmm.
Quelle est la vérité derrière ça? Et c'est là qu'en grattant un peu, puis aujourd'hui, c'est tellement plus facile qu'avant. Là, tu peux gratter avec l'Internet, puis tu vas découvrir rapidement d'autres gens qui pensent comme toi ou qui vont te démontrer que... Donc, on arrive à un point où ça va être plus difficile de nous mentir.
Mm-hmm.
Mais en même temps, ils ont des nouvelles méthodes plus violentes pour faire que les gens suivent ce courant-là.
C'est difficile à croire qu'il y a autant d'acceptation d'injustice puis de violence comme dans la société comme on voit en ce moment. Depuis récemment ici avec le printemps rouge, le printemps étudiant, c'est-à-dire. Ça a été vraiment un exemple flagrant de cette montée.
Et on va faire une petite pause avec la première capsule de Audrey Tardif. Sa capsule s'appelle « Sous l'influence du bonheur ». Et on revient après la pause avec ce thème. Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire.
Bonjour à tous et bienvenue à la capsule sous l'influence du bonheur. Je m'appelle Audrey et je suis la petite nouvelle de l'équipe Propos sur le bonheur. Du haut de mes jeunes 18 ans, j'essaie de comprendre le mieux que je peux le monde qui m'entoure. Alors j'espère que je saurai vous captiver et puis vous emporter dans ma bulle à tous les mois. Je commence ma capsule en citant Victor Hugo. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Ces temps-ci, je me demande vraiment où est-ce que le bonheur se trouve. Je me pose même la question si c'est quoi le bonheur. Comme vous pouvez constater, je suis à l'âge des remises en question. À regarder le comportement des gens qui m'entourent, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de leur vie. Et puis dans une situation économique difficile, je peux pas vraiment les blâmer. Le dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » semble très loin de la réalité, mais pourtant c'est vraiment une réalité frappante. Je crois que dans plusieurs cas, c'est fou comment l'importance d'être passionné, de s'épanouir, c'est sous-estimé. Je grandis dans un monde complètement préconçu. Que je sois un adulte ou un enfant, pas mal tout est choisi pour moi d'avance. L'école, c'est sûrement le meilleur exemple que je peux vous donner. Il faut que tu maîtrises tous les sujets avec brio, sinon t'es marginalisé, t'as des problèmes, t'es pas normal, là. Tu peux pas faire partie de la société normalement. Au travail, c'est la même chose. On se fait éduquer, on se fait diplômer. Dans le fond, un diplôme, là, c'est juste un morceau de papier là, qui nous donne accès à des emplois qui nous ressemblent peut-être vraiment pas, puis qu'on est peut-être même pas doué de faire. C'est des emplois qui nous allument plus ou moins, mais bon, faut faire de l'argent, sinon on est pas mal foutu. Mais qu'est-ce qui arriverait si on décidait de faire un peu moins d'argent pour être heureux et pour faire ce qu'on aime dans la vie? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps les gens qui choisissent plutôt cette direction-là qui sont des perdants et qui sont bizarres? Dans le fond, c'est eux les vrais gagnants qui s'enrichissent du bonheur. Si on aime le ski, ben pourquoi pas devenir un moniteur de ski puis d'en faire notre carrière? C'est juste un choix de mode de vie. Et qu'est-ce qui arriverait si on faisait les choses différemment et puis qu'on osait? C'est drôle comment on questionne à peine la rhétorique qu'on s'impose, même si ça nous rend complètement fous et complètement déprimés. Qu'est-ce qui arriverait si tout le monde se levait pour aller faire ce qu'ils adorent au lieu d'aller travailler, d'aller faire une corvée, d'aller faire quelque chose de plate? On vivrait peut-être dans une société beaucoup plus productive, beaucoup plus vivante, puis avancée. Les gens voudraient exceller dans leur domaine. Ils voudraient aller plus loin, ils voudraient se dépasser. Je pense qu'en sachant ça, il faut définitivement ne pas accepter l'ennui. On n'est pas obligé d'être des zombies endormis et paresseux. C'est un choix. Ça nous prend la foi. Il faut avoir l'étincelle humaine qui nous permet de voler plus haut, de rêver plus grand, même l'impossible est possible, et de créer plus fort des exploits qui semblaient totalement irréalisables. On n'est peut-être pas tous des grands innovateurs, mais on est certainement tous bons pour faire quelque chose, il faut juste essayer. C'est drôle comment les gens s'abandonnent dès qu'il y a un obstacle à surmonter, plutôt que de foncer puis vouloir réussir avec plus d'ambition, avec plus de détermination. Le cerveau et puis la logique, ça peut vous amener jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, ça prend le cœur et les rêves pour vous propulser beaucoup plus loin. Je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est pas le nombre de fois que tu tombes qui compte, mais c'est plutôt la façon que tu vas choisir de te relever. C'est en ne laissant pas tomber les bras, puis en osant de sortir de notre zone de confort, qu'on est tous capables d'arriver à notre bonheur personnel. Dans le fond, je suis la seule personne qui peut être le flambeau de mes rêves. Puis vous, est-ce que vous avez des rêves plus fous, des talents cachés, des projets inachevés? Écrivez-moi sur notre site web propossurlebonheur.com. Sur ça, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je suis Audrey et c'était ma toute première capsule sous l'influence du bonheur.
De retour à Propos sur le bonheur, notre thème aujourd'hui est « Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire. » Schopenhauer a décrit la vérité comme quelque chose qui se passe en trois phases. La première phase, la personne qui va dire la vérité va être ridiculisée. Dans la deuxième phase, cette vérité va être violemment opposée. Et dans la troisième phase, cette vérité va être acceptée comme évidente. Et c'est David Icke qui m'a fait pointer vers cette citation, parce que David Icke, dont je parlais tantôt, lui, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une révélation. Il était déjà dans les médias, il était journaliste. Alors, il est allé parler à une émission de télévision en particulier, puis il s'est fait ridiculiser. Ils ont ri de lui. Et là, ça a été l'enfer pendant, je pense, 16 ans. Où il marchait dans les rues, les gens riaient de lui. Il pouvait pas aller dans les bars. Il pouvait rien faire. Les médias riaient. Il y avait toujours une tête de Turc. C'était la tête de Turc. Il avait parlé des reptiliens, de certaines choses que finalement, après une vingtaine d'années de recherche, aujourd'hui, ça prend forme. Puis il remplit des salles au complet. Puis il y a un intérêt. Les gens commencent à comprendre que ce qu'il dit, c'est pas de la foutaise. Et j'aime bien ça, cette idée des trois phases.
Oui, c'est vraiment ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la dernière phase de quand c'est au début, on a dit c'est ridiculisé. Après ça, c'est violemment opposé.
Oui,
c'est ça. Bien. Puis de passer de violemment opposé à une, bien sûr, c'est vrai. C'est un petit peu comme deux équipes qui se combattent à la guerre ou deux armées. Tu sais. Puis une fois que tu as vaincu le chef de l'autre armée se conforme tout de suite, puis ça devient une armée. Tu sais. C'est un peu ce même phénomène-là, on dirait, avec les notions qu'on pense qui sont pas vraies. Puis, ça demande vraiment aux gens de... Il y a deux choses avec ça, parce que beaucoup de gens ont des problèmes ou vont pas accepter... tu sais, le terme, c'est conspiration, par exemple. C'est un terme, un buzzword, comme on dit en anglais, c'est un mot chaud. Et en même temps, ça amène à une réflexion. Juste faire une analyse critique va amener à voir que depuis des temps, il y a toujours des choses qui sont faites en secret, que ce soit une armée, un plan de militaire ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que le secret existe, ça fait longtemps que les choses sont voilées, puis ça fait longtemps que les intentions derrière les agissements des grands dirigeants sont voilées. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire que maintenant, on s'est voilé le futur, c'est des actions pétrolières, des actions corporatives, des actions gouvernementales, voilent une intention qui est autre que celle qui est montrée publiquement. Qu'est-ce qu'il y a de si... difficile à accepter de ça. Il n'y a absolument rien de difficile à accepter de ça.
Moi, je veux te dire, ce qui est difficile, c'est que quand tu te commences à parler comme ça, tu es ridiculisé puis tu es mis au banc de la société. Par exemple, moi, quand je suis arrivé à Montréal, il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé de me mettre sur l'aide sociale. J'avais aucune idée préconçue. Moi, tout ce que je voulais, c'est être artiste. Mais la levée de bouclier a été forte. Dans ma famille, c'était une honte. Les gens me poussaient vers le monde du travail. Tu sais, je réagissais pas normalement. Puis même le gouvernement voulait pas me donner l'aide sociale. Il a fallu que j'aille chercher un avocat. Il a fallu que je me batte pour avoir ce qui est mon droit. Et puis, c'est ça. Mais moi, je suis fort. Tu sais, puis je peux résister. Encore aujourd'hui, je ne vis pas comme la majorité, mais j'ai une force intérieure qui me permet de résister au ridicule, à l'incompréhension, à l'inintelligibilité. Ces choses-là ne viennent pas me chercher, mais chez la majorité, l'opinion des autres va être quelque chose de très important.
Ah oui, vivre pour la validation externe.
Oui, j'ai eu une femme, par exemple, dans ma vie... que tu connais, qui était notre professeur de danse. Et puis elle était totalement déchirée quand elle était avec moi parce qu'elle disait « Comment je vais t'intégrer dans ma vie? » Tu sais, toutes les gens dans sa vie étaient normales. Et moi, j'arrivais avec une pensée ouverte, d'ouverture dans le couple, d'ouverture générale. Puis elle n'a pas résisté. C'était trop fort. Elle ne savait pas où me placer. Elle ne voulait pas me présenter à sa mère. Elle dit « Tu vas vouloir baiser ma mère. » Je dis « Oui, pourquoi pas? »
Mais dans ces cas-là, c'est elle qui avait un problème avec toi, pas les gens autour d'elle. Elle a comme projeté le fait qu'eux, ils auraient un problème avec toi. Mais techniquement, de ce que j'entends, c'est elle qui avait un problème avec ça, dans le fond.
C'est elle qui, pour elle, elle se demandait pas ce que les autres pensaient pour faire le contraire. Elle disait, il faut que je blende, il faut que je fasse comme, faut que je sois dans le moule, sinon on va me juger, je vais perdre mes amis, ma famille, etc. Moi, je me dis pas ça. Moi, je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Je vais être artiste, je vais écrire des livres, je vais faire ça, je vais le faire. Puis dans ma vie, il va se placer des gens qui vont l'accepter. Peu importe ce qui va arriver, j'ai pas peur du jugement des autres. Donc,
mais t'attires les gens qui te ressemblent. Moi, j'ai commencé à remarquer les gens qui te ressemblent ou qui ont les mêmes, au moins une partie des mêmes visions que toi, ou qui sont dans les mêmes ambiances, les mêmes moods, comme vous dites, que toi. T'sais. Ça, je commence à... Plus je le vois en action, plus je me débarrasse aussi de certaines choses que je laisse partir. Et du coup, j'ai de plus en plus de gens qui ressemblent aux idéaux que j'ai ou aux idées que j'ai. Ces gens-là s'attirent.
C'est surtout vrai. Moi, en amour, je l'ai remarqué que c'était toujours le même type de femme. Jusqu'à temps que je change radicalement. Et là, j'ai eu une nouvelle femme, enfin, qui est capable d'accepter l'ouverture dans ma vie, tu sais, qui est capable d'accepter l'idée que je vais avoir d'autres femmes avec elle. Mais avant, c'était toujours le même modèle, avec un visage différent, mais une vibration, j'attirais une certaine vibration.
Et c'est parce que ça, je remarque aussi que soit la vie te met sur le chemin des gens qui te ressemblent pour que tu construises plus haut, soit elle te met des gens parce que tu as quelque chose à régler. Et tant que tu l'as pas réglé, c'est les mêmes types de personnes qui viennent te chercher au même endroit jusqu'à ce que tu comprennes, ok, c'est là en fait, le nœud, tu le débloques par XY façon de faire, comme ça te va, et là, t'as des gens qui... là tu changes, tu peux effectivement passer à l'étape suivante. Ça, je trouve ça... Moi, ça, je trouve que c'est super bien fait quand on observe un peu la vie. Je trouve ça super bien fait. C'est aussi... c'est une... dans ce que vous disiez là de prendre le contre-pied de la masse, c'est aussi une question de se faire confiance, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas oser parce que j'ai peur d'eux, mais c'est aussi une question de se faire confiance en soi.
C'est ça la clé. Se faire confiance, ça va aussi avec se connaître son essence. En moi, pour moi, c'est par le biais de la méditation qui est la voie la plus facile pour moi d'arriver à ça, de connaître qui je suis, sans égard à l'externe, puis faire cette distinction-là entre l'externe, moi, mon essence, et le partnership qui existe entre moi et l'externe. Donc, quand tu arrives à mettre un peu de temps là-dessus puis à le définir, ben, tu te retrouves dans une position où ce que tu peux faire la distinction entre ces folies, ces choses-là qui existent à l'extérieur, voir un peu comment le mécanisme fonctionne. Tu peux même anticiper ce qui s'en vient et voir de là qu'est-ce qui est, où ta position est la plus appropriée pour maintenir ton essence dans la manière la plus saine possible.
Oui. Tu vois, quand les gens... Si on généralise, par exemple, tu parles des gens, à des gens normaux qui vont, ils vont dire « Ah, les Arabes sont tous des ci, des ça. Ah, 9-11, c'est... 11 septembre, c'était tel... »
Un petit groupe d'Arabes...
Voyons donc... C'est ça que je veux dire. La majorité pense que c'est les Arabes qui ont fait le 9-11. Alors moi, je me dis, c'est le contraire. Puis, je veux dire, on peut facilement trouver des évidences sur le web qui démontrent que c'est un inside job, ça vient de l'intérieur, de gens. Un peu comme à l'époque, Hitler avait mis le feu au Parlement en Angleterre. Il avait, en sachant que ça allait être les Juifs qui allaient être accusés. Il l'a fait sciemment, et puis ça a parti la guerre. Ça l'a convaincu. Et c'est un peu ce qui est arrivé à 9-11, c'est-à-dire, OK, les Arabes, ça l'a donné un coup de grâce pour commencer à faire la guerre dans les pays arabes et avoir l'appui populaire.
Ouais.
Moi, ça me donne mal au cœur parce que je vois la vérité, je vois que c'est pas vrai. C'est un mensonge. Comment je peux être un des seuls à voir la vérité?
Ben, la chose que les gens devraient faire, puis je vais le dire tout de suite là, avant que ça aille, les gens ne devraient jamais croire leur gouvernement comme tel. Ils ne devraient jamais accepter ce qui est dit ou par un gouvernement ou officiel, des officiers de la politique. Ces choses-là devraient être vraiment mises de côté comme la moins réelle des choses. C'est la chose la plus douteuse qu'il n'y a pas. Les politiciens sont par nature soit corrompus déjà quand ils arrivent ou ils vont l'être s'ils ne sont pas au début. Ils peuvent être purs et angéliques au début, mais ça va devenir à un moment donné quelque chose qui est compromis. Et puis, tu ne peux pas rester dans la politique sans être compromis à long terme. C'est impossible. Ça ne peut pas exister. Donc, il faut prendre vraiment là, les paroles et les énoncés du gouvernement de côté. Il y a des gens qui croient simplement à rien du gouvernement, puis je pense qu'ils sont mieux dans une position plus saine que les autres. Donc, si c'est le cas, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire entre les lignes. Quelle anticipation veut-on dire quand on dit on va aller défendre les libertés de ben, peut-être que dans un autre pays, ça veut peut-être dire, bon, qu'on s'en va envahir cette pays pour, afin qu'ils se conforment et qu'on puisse extraire la richesse naturelle ou qu'on puisse manipuler une partie géopolitiquement parlant de la planète afin d'avoir X, Y, Z. T'sais, il faut voir les choses autrement.
Quel est l'agenda?
Là, c'est ça, exactement. Il y a une autre intention.
On a quelques secondes. Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Jennifer? As-tu perdu ton idée?
Non, mais c'est qu'en fait, tu disais, c'était évident pour moi que le 9-11, c'est comme le plus gros. Il y a plein de théories, beaucoup, mais donc, c'est comme la plus grosse conspiration, là, c'est comme la plus grosse théorie. Puis il y avait même des vidéos sur Internet de reportages qui ont été supprimées après, d'ailleurs, mais qui montraient certaines pensées, là, donc tu disais que ça avait été orchestré, etc. Il y a eu plein de choses. Dès que tu sors un peu des reportages qu'on te mettait à la télé, là, tu pouvais en voir pas mal. C'est comme le plus gros, pour illustrer ce sujet, moi, tout de suite, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ça, là. Le 11 septembre, pour moi, c'était logique.
C'est choquant. C'est choquant de voir que Monsieur Tout-le-Monde croit vraiment que c'est ça. J'en parle à des membres de ma famille, par exemple. Puis, ils croient dur comme fer que c'est ça. Et ça me fait mal parce que je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas je peux juste me changer moi-même, comme Gandhi le disait. On va faire une pause musicale avec Marie-Mé, une chanson qui s'appelle Différent. Et on revient après la pause avec ce thème. Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire.
Les ailes déployées dans le vent et tous aussi différents. Ils sont toi et moi à la quête des rêves les plus grands et tous aussi importants. Ils sont toi et moi. Toute une vie à
sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire. » La majorité des gens ont un besoin pathologique d'être aimés, au point de s'oublier soi-même. L'amour est régressif quand il n'est pas soutenu par l'être. La majorité des gens, à mon avis, n'ont pas d'être sur cette planète. Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'amour mène à des problèmes quand on ne s'est pas donné un être. Quand on n'est pas heureux à l'intérieur et on se jette sur les autres pour avoir par manque, ça mène au désastre. Et puis, l'autre, finalement, c'est toujours un relatif. L'absolu, c'est toujours le soi, c'est son centre. Et quand on regarde les autres qui sont comme une limite, on peut s'en servir pour s'illimiter. Mais si peu de gens le font, la majorité des gens vont s'appuyer sur les autres, mais on peut pas compter sur autrui. On finit toujours par tomber si on ne se lève pas debout par soi-même.
Que puis-je ajouter à ça, Nicolas? Tu viens de le dire. Merci, bonsoir. Et on va voir la semaine prochaine.
J'y ai réfléchi pas mal, ouais.
C'est ça, se conformer, c'est-à-dire se remettre encore à autre que soi. C'est toujours ça la question. Remets-toi à autre que soi, puis tu vas tomber dans des embûches. Parce qu'il n'y a rien d'infini C'est ça que je pourrais peut-être dire ça comme ça. Il n'y a rien d'infini en dehors de moi-même. Il y a juste moi-même qui est infini. Fait que quand je vais à l'extérieur, je vais trouver le fond de l'affaire. Je vais trouver le fond dans ma relation. À un moment donné, je vais être tanné de manger des bines puis du riz tout le temps. Là, t'sais. Je vais trouver le fond de l'histoire puis je vais m'emmerder à un moment donné. Puis je vais trouver, hey, je perds ma créativité. Je regarde toujours dans la même direction. C'est un peu ça le problème avec la validation avec l'externe. Donc, il faut vraiment que je revienne avec mon auto-générateur intérieur, appelle ça comme on veut, mais le mécanisme éternel interne, c'est la seule manière que je peux vraiment jongler avec ça. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses dans la vie. Il y a beaucoup de belles choses à aimer, à profiter, à vivre. Le paradis sur Terre existe, mais c'est pas infini dans ce sens-là. Donc, pas à l'échelle de l'être. Voilà.
C'est comme une mentalité au Québec, surtout. Là, moi, je parlerai de ce que je connais. C'est qu'on a une mentalité de troupeau. Hein, on a été longtemps géré par l'Église, qui, elle, était gérée par les Anglais, qui leur donnait le droit de nous gérer en autant qu'on puisse parler français. Et ça, ça a fait qu'on ait une mentalité de mouton. Dans le fond, c'est ça l'image de l'Église. C'est le bon berger qui mène ses moutons à l'abattoir. Ouais. Ils disent pas ça, mais tu sais, c'est un peu ça. Et quand tu veux pas être un mouton, moi, je me sens ni un berger, ni un mouton. Je me sens un électron libre. Et ça, je te jure que ça prend... Quand tu vas à contre-courant, ça prend une force assez incroyable, surtout au Québec. Je sais pas, en Europe, là, en France. En France, il y a beaucoup de groupes d'intellectuels qui font des joutes philosophiques, mais ici, au Québec, on n'a pas ça. On a un genre de grosse mentalité globale. Si tu sors du modèle... on te coupe la tête. C'est pas facile d'être... Ben, tu sais, ça n'a jamais été facile d'être différent. Non?
Tu l'as décrit comme le berger et les moutons, puis c'est une bonne analogie. Moi, l'autre analogie, c'est-à-dire que je vois, c'est plutôt celle de la corporation. Je trouve que dans l'ensemble, le pays comme tel, c'est un peu comme une corporation. Puis comment survit une corporation? C'est en établissant des procédures écrites, hein, documentées pour établir le déroulement de toutes ses activités, y compris l'absence des plus hauts placés dans l'organisation. Comme même si le président ou même si le premier ministre quitte, la corporation continue. Par la présence des procédures définies de contrôle dans l'ensemble, là, les corporations, eux autres, peuvent toujours prédire et avoir leur produit final, savent qu'est-ce qui va passer ou qu'est-ce qui va sortir au bout de la chaîne de production. On peut le prévoir. Les pays, là, comme ici, le Canada, les États-Unis, tous les pays du Commonwealth fonctionnent comme une corporation dans l'ensemble. Et tous et chacun, on est un petit peu comme des membres de cette corporation. Et quand c'est le cas, ben, la corporation opère dans des procédures, donc on encadre toutes ces choses-là. Nos activités sont encadrées et sont prévisibles. On sait que si on monte le prix du gaz, ben, on va avoir une réaction à gauche. Et si on bloque ce chose-là, on va avoir une réaction à droite. Donc, cette manipulation est vraiment complète. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui est pas... On a juste à partir une mode avec une exposition répétitive de n'importe quoi sur la télévision. N'importe quoi qui est répété longtemps, tu viens qu'à un moment donné, tu penses que tu l'aimes parce que...
Exact, ça devient une vérité.
C'est mémorisé dans ta tête. C'est ça. C'est pas vraiment que c'est créatif, c'est pas vraiment que c'est légitime, c'est juste parce que c'est répété. Donc, on sait que c'est comme ce qu'on éduque un enfant, c'est de le répéter la même chose. Donc, ce principe-là arrive, puis c'est encore là. Donc, il faut vraiment s'éveiller là-dessus.
Oui. Je vais donner un autre exemple dans cette ligne-là, c'est Tesla. Tu sais, toi, tu l'as bien étudié. Tu sais, Tesla a inventé une manière de créer de l'énergie à partir de rien. À cette époque-là, il recevait des fonds d'un homme d'affaires très puissant qui, soudain, s'est rendu compte que s'il continuait à lui donner de l'argent, il allait perdre de l'argent parce que lui, il voulait vendre des fils électriques justement pour faire plus d'argent. Donc, il a vraiment ruiné la carrière de Tesla.
C'est ça, il voulait pas... c'était J.P. Morgan, qu'est-ce que tu parles? Puis quand J.P. Morgan a découvert justement que Tesla voulait donner de l'énergie gratuite, libre, et qu'il ne pourrait pas mettre un compteur sur le fil pour collecter l'argent.
Puis ça, c'est vraiment une image très forte parce que Tesla est un des plus grands génies de l'humanité.
Oui.
Et il a fini dans les rues comme un mendiant. C'est vraiment, ça fait mal. Moi, ça me fait mal quand je vois l'histoire de génie comme ça. Mais Tesla a dit, justement, le présent appartient à Einstein, l'avenir m'appartiendra. Tu sais, il savait qu'un jour ou l'autre, on va revenir vers ça. Mm-hmm. Mais tu vois, ça fait presque 100 ans. On n'y est pas encore revenu.
Ben, pourtant, les découvertes et les machines et les concepts se multiplient et se multiplient. On reprend le même principe, on fabrique quelque chose de différent, que ce soit par l'approche magnétique et l'approche électrodynamique. C'est-à-dire, le terme m'échappe en ce moment, mais il y a différentes manières d'arriver là. Et encore aujourd'hui, on n'a pas encore un produit de masse, produit en masse pour faire ça. Parce que tout de suite aussi qu'on fait ça, aussitôt qu'on fait ça, on se libère de l'empire énergétique, c'est-à-dire les corporations pétrolières. Alors,
puis il y en a qui ont essayé. Je pense qu'il y a un inventeur québécois qui avait inventé un auto à l'eau. Il s'est fait acheter son brevet. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, mais il s'est fait. Il n'a plus le droit de rien faire.
C'est ça. Habituellement, tu dois soit te conformer, accepter la récompense et puis être tranquille puis disparaître, ou bien ta famille puis tout ce que tu connais va disparaître. C'est des genres de situations où tu n'as pas le choix. T'sais. Donc, c'est ça qui est malheureux, mais c'est encore, d'après moi, le cas, parce que sans ça, on serait déjà libéré de tout ça. Là. D'ailleurs, c'est quand on y pense, hein, tout ce qui est Hydro-Québec n'aurait pas de sens hein, dans cette pensée-là. Hydro-Québec n'aurait pas sa place. Il n'aurait pas besoin de distribuer du pouvoir, c'est-à-dire de l'électricité par les fils. Toute l'infrastructure existante n'est plus pertinente, n'est plus nécessaire. Donc, juste ça, ça bouleverserait beaucoup. On peut voir, on peut anticiper à quel niveau ça serait bouleversant.
Mais s'ils étaient honnêtes, on recevrait de l'argent. Ben parce oui, c'est notre pays.
On pourrait vendre de l'électricité pour des buts lucratifs.
Ça reviendrait à tout le monde.
Comme le pétrole pour d'autres pays, ça serait notre pétrole et puis on pourrait les gens pourraient bénéficier.
Mais même le pétrole, on sait, dans les autres pays, ça va juste à des familles riches. Ça va jamais dans les pays les plus riches
du pétrole. La Libye, c'était un petit peu le contraire. La Libye, c'était pas ça jusqu'à temps que Kadhafi soit enlevé de pouvoir, bien sûr.
Ah ouais?
Il y avait des conditions merveilleuses en Libye pour vivre. Il n'y avait pas rien que tu pouvais pas avoir besoin. C'était vraiment une société qui se rapprochait beaucoup plus du normal.
Et ça, tu vois, c'est encore un bon exemple de déprogrammation, de désinformation. Le Kadhafi est devenu le gros méchant en Amérique du Nord, alors qu'il était vu par ses...
C'était adoré plusieurs de ses gens.
Mais ça a servi l'agenda. Et moi, c'est la question qu'on doit toujours se poser derrière, c'est à qui ça sert?
Bien, ça sert à ceux qui sont... Bien, pour moi, si tu me permets de répondre.
Oui, vas-y.
Ça sert à continuer... Tu vois, le but, c'est de faire en sorte que l'argent en papier soit toujours dominant partout. Parce que celui qui contrôle l'argent et sa valeur se fout des politiques et des lois émises par un pays. Si tu contrôles l'argent, la valeur monétaire, à ce moment-là, tu contrôles le pays. Tu peux l'amener à ses genoux. Tu vois? Fait que toutes ces choses-là, comme des pays, qui sait qu'il n'y a pas de banque nationale privée encore? Il y a très peu de pays. L'Iran, la Russie, la Syrie, il n'y avait pas longtemps. Je ne sais plus ce qui arrive avec la Syrie, là, parce que c'est fait pas mal massacrer. La Libye, il l'avait, était libre avant que Kadhafi se fasse assassiner. Donc, très peu de pays encore conservent une banque individuelle qui appartient au pays. Et c'est ça qu'on voit qui est le pattern, pour moi, maître, là, ou une des bouées ou une des mesures. Est-ce que le pays a encore une banque libre? Fonctionne-t-il sur l'or, par exemple? Comme réserve nationale. Si oui, à ce moment-là, il va être la cible de la prochaine ISIS ou le prochain Al-Qaïda ou peu importe. Là, quel nom qu'il donne à cette manipulation, à cette
c'est comédie. Tout un défi d'être heureux sur la Terre. Hein?
Donnant tout ça, oui, c'est ça. Donc, l'être humain fait face à des difficultés externes énormes pour trouver ça. C'est pour ça que ça vaut la peine d'investir sur soi en premier. Parce que vu que moi, en tout cas, je suis un adhérent de la proposition ou de la description de la réalité qui est illusoire et holographique, non matériel. Il faut, tu sais, là, m'en y mettre les freins et puis faire un peu de recul, là, parce que n'oubliez pas que c'est une joke. T'sais.
Ouais, respirer, reculer un peu, puis essayer de voir la grosse image.
Oui, c'est ça.
Ce qui n'est pas toujours évident, mais si on se donne l'intelligence, si on se donne des points de repère, on peut y arriver, mais c'est malheureux. En tout cas, au Québec, depuis les années 60, ils ont enlevé tout ce qui rendait les gens les plus critiques. Ils ont enlevé les études gréco-romaines, le grec, le latin. La philosophie est sur le point de prendre le bord.
Une population bien éduquée ne sert pas aux dirigeants plutocratiques. N'a pas d'utilité pour eux. T'sais. Donc, il faut garder ça en tête. Il n'y a pas vraiment de bénéfice à un contrôleur d'avoir ses sujets trop intelligents ou plus intelligents, ou augmenter leur intelligence, sauf pour, bien sûr, les besoins de la cause de faire le travail requis.
Exact. Puis dans les révolutions, généralement, c'est les intellectuels qui se font tuer en premier, se font mettre en prison. Eh bien, on va faire une pause avec une capsule d'Angélique Charroux. Sa capsule, c'est « Le bonheur dans toutes les directions ». Et puis, on revient après la pause avec ce thème. « Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire. » I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.
Bonjour, ma solution jeu aujourd'hui prend la forme d'une histoire jeu qui se nomme « Oh, mon bateau » et répond à la demande d'Éric. Je voudrais savoir comment gagner du temps. Mes journées me semblent toujours surchargées et le soir je suis épuisée. Le temps nous glisse entre les doigts ou paraît interminable. Cela est dû à notre perception face à la notion du temps et au plaisir ou insatisfaction qui s'y rattache. Donc, pour soutenir Éric à mieux apprécier le temps qui passe et délier le stress accroché à cette sensation, l'histoire-jeu « Oh, mon bateau » fait appel à votre imaginaire. Visualisez et réalisez en même temps des actions. Préparez 5 objets. Une paire de ciseaux, une bassine remplie d'eau, deux coques de noix que vous videz. Dans l'une d'elles, déposez une bille. Elle s'appellera noix lourde et l'autre noix libre. Entourez votre taille d'une ficelle que vous accrochez à une chaise ou autre chose en laissant de la distance. Une sonnerie vous indiquera le moment d'agir avec les objets et cette même sonnerie pour reprendre le cours de l'histoire. Vous êtes le capitaine d'un bateau pirate, le haut. Sur une mer agitée, voyez les grandes voiles, le mât qui pivote de droite, de gauche, n'ayant pas encore votre main pour le diriger. Soufflez fort sur noix lourde. La corde autour de vous vous empêche de vous déplacer à votre aise. Rappelez-vous. Vous êtes le capitaine. Décidez du bon aiguillage. Nord, sud, est, ouest. Tournez noix libre. Dans la direction de votre choix. Vous savez maintenant que le bateau est en sécurité et stable. Coupez la corde. Libérez-vous et voguez dans tout cet espace disponible. Vous respirez à plein poumon. L'air est frais et pur. Votre vue éclairée voit de plus en plus loin. Tous les sens sont en éveil. Alors oui, vous remarquez que le bateau est au ralenti. Bien sûr, il y a trop de marchandises inutiles. En tant que capitaine, vous commandez à votre équipage de jeter par-dessus bord les biens volés et dites « Je déclare redonner à la mer ce qui appartient à la mer. » Renversez la bille de noix lourde. Oui, voici le moment où tout est parfait. Le bateau fort et léger glisse sur l'eau tel un patineur sur la glace. Tenant d'une main ferme le bon cap, prenez le temps d'admirer les merveilles qui vous entourent. Ici et maintenant, vous profitez des bienfaits de vos efforts. Bravo, capitaine. Vous pouvez reprendre l'histoire-jeu autant de fois qu'il vous plaira et même créer des faits supplémentaires. Comme toujours, c'est sans limite. Je vous dis à bientôt sur le site proposurlebonheur.com. À bientôt, bon jeu, bye bye. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Demandez-vous ce que pense la majorité et pensez le contraire. » Une citation intéressante là, d'Oscar Wilde que j'aimerais dire. C'est pas totalement exact comme il l'a dit, là, mais c'est comme ça. C'est la majorité des gens sont d'autres gens. Leurs pensées sont celles des opinions de quelqu'un d'autre. Mmh. Et leur vie est un simulacre. Et leur passion, une citation.
Elle est belle.
Profond, ouais, c'est bon.
Il y avait une chanson, c'est de Marilyn Manson qui était A Copy of an Imitation.
Ah,
ouais,
oui.
A Copy of an Imitation. ça représente bien la majorité des gens, je trouve. Tu avais des exemples que tu veux nous dire plus humains?
Non, mais en fait, parce que moi, pendant que vous parliez aussi, j'avais à un moment donné la citation de John Lennon en tête. Jeune, il était en classe, puis sa maîtresse lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Il lui répond « Je veux être heureuse. » Et on lui dit « T'as rien compris, c'est pas ça la question. » Et lui, il répond « C'est eux qui ont rien compris, dans le fond. » Ça, j'ai toujours trouvé que c'était une citation complètement extraordinaire. Parce que de quel droit on dit à un enfant qui fait une réponse pareille « T'étais con, t'es bête, t'as rien compris, tu vas rater ta vie. » Moi, je me souviens, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec des amis aussi, de gens qui sont des gens brillants, mais parce qu'ils n'avaient pas l'attitude qu'on attendait en cours. Moi, j'y suis passée aussi. Hein. Clairement, il y a un prof qui avait dit à ma mère, elle, elle ne fera jamais rien de sa vie. Genre, je suis con parce que j'y comprenais rien aux maths.
Ah oui.
Moi, j'avais bien envie de lui répondre que j'allais pas faire des multiplications au micro quand je serais chanteuse, donc ça n'allait pas me servir quand je serais comédienne, tant que je savais me débrouiller avec ça. Là. Mais ce n'était pas acceptable à ce niveau-là. Et ce que je disais tout à l'heure pendant la pause, c'est que bien souvent, dès qu'on a certaines valeurs ou certains idéaux qui sont assez ancrés, on se heurte souvent au monde. Moi, je sais que mon moteur à moi, c'est beaucoup la loyauté, la justice. D'ailleurs, les gens qui sont autour de moi me le disent. Mais je vois, à part les gens qui me sont les plus proches, qui me ressemblent aussi là-dessus, mais majoritairement, je vois que je me heurte beaucoup au monde par rapport à ça. Et moi, souvent, je regarde le monde, ça me fait mal aussi. Bah, moins maintenant, parce que je veux dire, plus j'avance, plus je me dis, bon, bah voilà, moi, je suis comme ça, c'est mes valeurs. Si t'as les mêmes, on va faire un chemin ensemble, puis sinon, tu vas tourner au prochain tournant, puis moi, je te suivrai pas, là, je vais continuer plus loin. Mais c'est aussi des acceptations, parce que accepter d'avoir quelqu'un dans sa vie qui n'est pas forcément fait pour y rester, même si on a lié un lien, qui est né, c'est toujours quelque chose d'un peu délicat, je trouve. Mais je trouve qu'en tout cas, beaucoup, selon nos valeurs à nous, on se heurte au monde, et ça devrait pas. Quelqu'un de profondément gentil ne devrait pas se heurter au monde. Au contraire, il devrait être accompagné par le monde et pas le contraire.
Si c'était un monde idéal.
Ouais. Mais même sans idéal, je trouve une partie d'intelligence ridiculise pas quelqu'un qui est gentil. Moi, par exemple, je me souviens d'un exemple très précis. Quand j'étais jeune, on avait des phénomènes de petits groupes. Enfin, surtout, nous, on était des bandes de filles. Là, on appelait ça les bandes. Donc, il y avait la bande d'une fille, il y avait la bande d'une autre fille. Puis souvent, les deux bandes se réunissaient puis aux récréations là, dans les écoles. Et puis même, on était dans la même classe, donc on se connaissait toutes. Je parle quand j'étais à l'école primaire. Là. Et systématiquement, il y avait toujours quelqu'un qui avait dit ce qu'il ne fallait pas, qui se faisait exclure de la bande. D'ailleurs, c'était assez redoutable, mais bon, c'est des trucs de petites filles. Là, c'est pas... Et moi, systématiquement, parce que c'était souvent la même petite fille qui se faisait exclure de la bande, moi, je sortais de la bande sans me poser la question. J'avais toutes mes amies dedans et je savais que ça voulait dire pas passer des récrés avec elles, pas pouvoir jouer comme on jouerait avec ces gens-là. Mais je me posais pas la question. Je voyais que cette jeune fille était sortie, je sortais aussi. En sachant que bah, peut-être j'allais perdre ma place dans la bande, etc., etc. Mais parce que pour moi, c'était plus important de pas la laisser toute seule. Mmh. Et rien que ça, les autres, mais ouais, mais t'es folle, mais nanana, mais pourquoi tu fais ça? Elle va plus jamais te parler. Bon, on s'entend que c'était un rapport d'enfant. Mais c'est un mécanisme que j'ai revu beaucoup. Et je trouve ça dommage. Ça devrait être le contraire, en fait.
Oui, c'est quelque chose à dire de bon à propos de vouloir inclure quelqu'un, non pas l'exclure, malgré que il faut savoir faire cette distinction. Si cette personne-là se tient du groupe à part parce qu'elle croit en ce qu'elle dit et qu'elle est claire là-dessus, même à un jeune âge, on peut pas le dénier. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt, beaucoup trop de gens, c'est comme quelqu'un dit « Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis. » Point. Mais c'est pas ça qu'on dit habituellement. Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis un travailleur, je suis un plombier, je suis un artiste, je suis un fonctionnaire, etc. Donc, c'est comme en anglais, tu sais, on dit pas en anglais « I'm a human being », on dit pas « I'm a human doing », un être à faire des choses. On n'est pas assez être, on ne prend pas assez la machette pour couper cette jungle d'illusions pour venir à l'essence de qui on est. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être fort, c'est comme ça qu'on va pouvoir être clair, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre du sens à cette vie insensée.
C'est que quand tu le fais, les gens ne comprennent pas. Moi, je l'ai fait. Mm-hmm. J'ai été un « je suis » très longtemps. parce que j'avais pas de job, je suis artiste, mais j'avais et puis les gens comprenaient pas, ma famille, j'étais un raté, parce que je ne faisais pas ce que la majorité doit faire. Mm-hmm. J'avais quand même un baccalauréat en administration des affaires. C'était incompréhensible. Et pourtant, maintenant, ça va bien, mes affaires. Ça va mieux que jamais. Puis, je regarde les gens autour de moi qui, eux, ont sauté dans le marché du travail tout de suite, sont fatigués, ils n'aiment pas leur emploi souvent. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Moi, je n'avais pas le goût de travailler. Je ne me suis pas demandé qu'est-ce que les autres vont penser. Je dis, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'ai le goût d'avoir du temps pour dessiner. C'était ça que je voulais faire à ce moment-là, dessiner comme un fou. Là. Je dessinais tout le temps. Et puis après avoir dessiné autant, eh bien, j'ai commencé à faire de la musique parce que j'avais tellement dessiné, j'avais tellement fait ce que je voulais que là, j'avais le goût d'aller plus loin. Puis après ça, j'ai fait une grosse phase de peinture et en même temps, beaucoup de musique. Mm-hmm. Et puis là, vers 32, 33, j'étais satisfait. J'ai dit, bon, là, je pourrais commencer à travailler. Mm-hmm. J'ai le goût de voir qu'est-ce que c'est. Mais je l'ai fait d'une manière plus intelligente, à mon avis. Maintenant, je suis heureux. Cette semaine, j'ai eu des moments où j'étais fatigué, j'avais mal à la tête. Mais j'étais chez moi, fait que j'étais allé dormir, j'ai fait des siestes. T'sais, si j'avais été à mon travail, je me serais mis à dos mon boss, j'aurais pas été productif. Il aurait fallu que je me mette malade, puis j'aurais perdu des journées de travail. T'sais, ça aurait été super compliqué. Alors que là, c'est si simple, je réponds pas au téléphone, je travaille un peu plus tard le soir, c'est tout.
Mais ça, c'est vrai en plus parce que ce que tu dis, parce que moi, j'ai un parcours assez atypique. Et c'est vrai que moi, souvent, on me dit, par exemple, des amis de ma mère, quand je les ai pas vus depuis très longtemps, elles me disent, mais qu'est-ce que tu fais? T'en es où? Ça y est, t'as trouvé? Qu'est-ce que tu fabriques, en gros? J'ai envie de leur répondre, j'ai 28 ans, donc tu vas me parler d'égal à égal, parce que maintenant, je suis plus la petite fille que t'as connue. Je suis une femme, j'ai ma vie, j'ai ma vision des choses. Puis soit on en discute comme des adultes à adultes, ou tu me mets sur un pied d'égalité, soit déjà, moi, ça m'intéresse juste pas. Déjà pour ça, être reconnue en tant que moi, être humain, femme, adulte, déjà c'est quelque chose. Mais en plus de ça, de quel droit juges-tu mon parcours, toi qui es malheureux dans ta vie maintenant, t'sais? Parce que je les vois, leur frustration, je l'imagine d'ailleurs que c'est à cause de ça qu'ils me posent la question. Ouais. Parce qu'ils sont frustrés, probablement, mais je veux dire, même là, c'est agressant quand quelqu'un dit « Ouais, mais en même temps, t'as fait ça, pourquoi tu fais ça ?»« Parce que j'ai envie de faire ça. Parce que là, j'ai eu envie d'aller faire du théâtre. Parce que là, j'ai eu envie d'aller faire du chant. Parce que là, j'ai eu envie d'apprendre telle chose. Parce que maintenant, j'ai eu envie d'apprendre au cinéma. Parce que j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Parce que je veux pas rester. Je veux faire plusieurs choses qui me plaisent et pas une chose qui m'embête, quoi. Qui va m'ennuyer. Parce que moi, ma vision du bonheur, ça va être ça. Ça va être, moi, dans ma vie, de me réaliser le plus loin possible de la meilleure version, enfin le plus près possible d'aller vers la meilleure version de moi-même. Et si je vais pas vers les choses qui m'intéressent, je peux pas. Et même j'ai eu une discussion récemment avec ma mère qui me dit, mais j'ai parlé de mon envie de retourner aux études pour pouvoir attendre entre les contrats de cinéma. Elle me dit, mais non, mais tu vas pas retourner, qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Je dis, regarde, peut-être tu comprends pas, mais c'est ma vie et c'est moi qui vais la vivre. Toi, t'auras pas apporté mes réalités. Je veux dire, c'est pas toi qui vas t'embuter avec le fait que pendant 3 mois, t'auras pas le cinéma ou t'auras pas... C'est mes réalités à moi. Et je te permets pas de juger ce parcours-là, parce que c'est à moi qu'il appartient. Mais c'est vrai qu'on est toujours contre la majorité, parce qu'il aurait fallu que, juste après la fac, quand moi j'ai obtenu mon baccalauréat, en fait, que je fasse tout de suite mon métier, ou que je fasse... ou que je me reforme tout de suite derrière, mais j'avais pas le droit d'hésiter. Ben, j'ai hésité, je suis vachement contente de l'avoir fait. Ça veut pas dire que j'ai tout sûr, mais je trouve ça plus facile déjà de trouver plus certainement ta voix à 28 ans que tu la trouverais à 15. Je trouve ça super dur de dire à un enfant de 15 ans, trouve ta voix, quoi. Et je suis contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir tourner un peu, parce qu'au moins un jour, je me réveillerai pas frustrée dans ma vie et je pourrai transmettre une idée différente à mes enfants. J'espère que j'aurai l'intelligence d'être assez ouverte, quoi. Bien pour ça.
Moi, j'ai fait de la musique, là, j'en ai fait vraiment beaucoup, des spectacles. Puis maintenant, je sais que c'est pas ma voix principale. Mais si je ne l'avais pas fait, maintenant, je me dis, peut-être que ça aurait marché. Peut-être. Là, je sais, ça n'a pas fonctionné parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime être chez lui. J'aime écrire, je suis plutôt sauvage. Donc, je vais peut-être faire de la musique dans ma vie, je vais peut-être refaire des spectacles, mais ça ne sera pas mon occupation principale. Et ça, je l'ai compris par l'expérience. Mm-hmm. Et puis, je me suis mis à dos presque tout le monde à ce moment. À la fin, j'étais rendu toute seule, même ma compagne qui m'avait soutenu pendant si longtemps. Les pressions de sa famille elle était roumaine, donc dans sa famille, c'était l'homme qui devait amener l'argent. T'sais. Puis là, c'était le contraire. Elle faisait plus d'argent que moi, j'en faisais pratiquement pas. Et ça mettait une pression, elle ne savait plus comment dealer avec ça. Puis à la fin, j'étais rendu toute seule. Je me suis retrouvé complètement seul à un certain point. Et c'est là que j'écris mon livre « Le bonheur absolu ». Mais ça, ça m'a aidé à comprendre. Mais j'étais heureux, moi. J'étais dans un bonheur absolu. Mm-hmm. C'est juste que je n'arrivais pas à connecter avec la majorité des gens parce que moi, je pose des questions. Je pense que la philosophie, c'est ça. C'est poser des questions. Puis on a le droit de poser des questions. Pourquoi je devrais travailler? Moi, je n'avais aucune raison de travailler. Avant, j'ai trouvé la raison de travailler, c'était vers 30 ans, 32 ans, je pense, quand j'ai lu un livre d'André Moreau. Il disait que l'assisté social devient un assisté mental. Alors, j'ai dit, ah, voilà, c'est pour ça que je devrais travailler. C'est pas parce qu'il faut que je fasse de l'argent, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille en auto, il faut aussi. C'est que si je suis sur l'aide sociale toute ma vie, je vais être comme un mollusque qui tend la main. Et je vais être un assisté mental. Et c'est ça que je voulais pas. Et je voyais qu'après 10 ans, j'étais sur le point de le devenir parce que je recevais mon chèque à chaque mois. Mm-hmm. Je me posais pas de questions. Mm-hmm. Moi, l'argent rentrait, pack. Puis le reste, ben, il m'était donné. C'est ça que c'était pas
c'est une trappe.
Tout le monde va dire, faut que tu travailles pour avoir de l'argent, mm-hmm. pour faire ci, mais c'est pas des bonnes raisons. Pour moi, c'était... Parce que à Montréal, en particulier, si t'es pauvre, t'es capable d'aller chercher des ressources. Il mm-hmm. y a de la nourriture qui est donnée, t'as l'aide sociale, t'as des bourses, t'as des prêts, des subventions, je veux dire, etc. Eh bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. C'est un bon thème. Merci, mes amis Jennifer et Robert. Alors, je veux remercier Radio Centre-Ville, Radio H2O et le Mouvement Jovialiste pour leur appui. Et je vous invite à venir sur proposeslebonheur.com pour réécouter l'émission et écouter les chroniques qui vont être aussi mises sur la page d'accueil séparément de l'émission. Et puis, bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
On vous laisse avec une chanson de Kenny Arcana qui s'appelle « Le syndrome de l'exclu ».
J'ai le syndrome de l'exclu, l'impression de pas être à ma place, mal jugé, mal vu depuis l'époque d'aller en classe, dégaine, de délinquante, et je pue la zone à trois bornes, l'impression d'être jeté, même quand y'a des gars à bas bord, ils nous prennent pour des primates, ça met sur les nerfs, j'ai pas les mots, je m'exprime à l'écran, j'en ai plus, je m'énerve, ouais je sais, c'est nul, ça m'a causé des torts, mais j'ai pas la patience de ceux qui sont restés à l'école, l'impression de déranger par ma simple présence, quand je suis loin du quartier, de mes gens, je déstabilise, attise la vigilance à faire flipper les mamies et faire stresser les vigiles, je ressens la méfiance de l'autre comme un coup bas, je paranoïde de sa parano et je me sens coupable. Depuis que je suis môme, j'en ai ras-le-bol, je m'auto-exclu, car de l'exclu, j'ai le syndrome.
J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus.
Douleur infantile, sentiment d'exclusion. Alors je foutais bordel quand j'étais petite. Aucun respect pour la complaisance, ni celle des petits, ni celle des grands. À force d'être vu comme le vilain petit canard, ça te fait pousser les dents. Sentir la crainte, c'est blessant. Et petite, ça m'a blessé. Alors tu deviens ce qu'ils dessinent dans leur cliché. Une marginale qui en a plus rien à pisser. Une sauvage au royaume d'une peur trop civilisée. Tu sais, le syndrome est profond quand tu rentres pas dans leur format. Et que l'injustice est comme normal. Faut oser, sinon. Entier mormon, que chacun de nous porte l'âme de qui il est, la vérité qu'on proclame. Prison de stéréotypes, je suis coupable avec ma tête de crabe. Allez-vous-en avant que je pète un câble. Y'a que des figures hypocrites dans vos symboles. Laissez-moi dans mon coin, car de l'exclu, j'ai le syndrome.
J'ai le syndrome de l'exclu.